Les yeux au ciel. Les yeux au ciel avec Anne-Françoise Marie pour découvrir les merveilles des étoiles.
Approchons-nous tout près du Soleil pour aller visiter la plus petite des planètes du système solaire, j'ai nommé Mercure. Mercure est visible depuis la Terre car elle a une magnitude qui peut aller jusqu'à moins 2. Mais son observation peut se révéler un petit peu compliquée car elle n'est jamais bien loin du Soleil. On dit que son élongation, c'est-à-dire l'angle apparent maximal entre Mercure et le Soleil, est faible. En fait, elle est exactement de 28 degrés. Mercure apparaîtra donc toujours à moins de 30 degrés du Soleil. 30 degrés, pour vous donner une idée, ça fait un tiers de la distance entre l'horizon et le zénith. En plus, comme la Lune et comme Vénus, Mercure présente des phases vues depuis la Terre. C'est-à-dire qu'elle va passer par des phases de nouvelles, pleines, croissants, etc. C'est le cas de toutes les planètes qui sont entre la Terre et le Soleil. Elle est dite nouvelle à la conjonction inférieure et pleine à la conjonction supérieure. Cependant, la planète Mercure est rendue invisible depuis la Terre à ces deux moments-là, parce que soit elle est derrière le Soleil, soit elle est devant le Soleil. Alors, éventuellement, quand elle est pile devant le Soleil, on peut l'observer en transit, c'est-à-dire qu'on peut observer l'ombre que fait Mercure devant le Soleil. Pour observer un tel transit, il faut bien sûr être équipé, car on ne regarde pas le Soleil directement en face. Mais revenons à notre petite Mercure. Techniquement, elle est plus brillante lorsqu'elle est pleine, c'est logique. Plus la surface de la planète éclairée est grande, plus elle est lumineuse. Sauf que à ce moment-là, en fait, elle va se retrouver complètement derrière le Soleil, et donc elle va être très difficile à voir. Le meilleur moment pour observer Mercure, ça va donc être pendant ses phases de croissant. Le premier quart ou le dernier quart. À ce moment-là, elle a une élongation, c'est-à-dire un éloignement par rapport au Soleil, qui sont plus importants. Quand Mercure est à son élongation maximale à l'ouest, elle va se lever avant le lever du Soleil. Et quand son élongation maximale est à l'est, elle va se coucher après le coucher du Soleil. Et ça, c'est des moments où ça va être un peu plus facilement observable. C'est-à-dire qu'il va vous falloir trouver un horizon très dégagé, aucun arbre, aucune maison, pour essayer de voir le plus bas possible et attendre que le Soleil soit couché depuis déjà quelques minutes, car il faut que la luminosité du Soleil soit vraiment derrière la Terre, et vous pourrez essayer de voir Mercure qui sera du coup assez proche de l'horizon. D'une façon générale, observer Mercure grâce à un télescope ne révèle pas grand-chose, puisqu'en fait on va voir un disque partiel, puisqu'on va la voir pendant son premier quart ou son dernier quart, avec une couleur orange, mais peu de détails. Il n'y a pas grand-chose à observer sur Mercure. Alors, déjà, la proximité de l'horizon rend l'observation un petit peu difficile, parce qu'on va avoir beaucoup de perturbations par l'atmosphère terrestre. Quand on regarde à l'horizon, on traverse plus d'atmosphère que quand on regarde vraiment au zénith. Donc on va avoir des turbulences, on va avoir la réfraction, on va avoir de l'absorption aussi par les molécules de l'atmosphère. Donc tout ça, ça va rendre une image un peu floue. Alors on pourrait se dire, ok, on va compter sur les télescopes spatiaux pour nous envoyer des supers images, le télescope spatial Hubble par exemple. Eh bien en fait, pas vraiment, puisque le télescope spatial Hubble, il a les mêmes problèmes que nous pour regarder Mercure. En fait, pour des questions de sécurité, il ne peut pas pointer le Soleil, parce que ça pourrait abîmer ses miroirs, et donc il ne peut pas vraiment regarder Mercure. Mais c'est pas grave, parce que même si on n'arrive pas à la regarder très bien, on connaît quand même beaucoup de choses sur Mercure. Mercure, c'est une planète tellurique, comme le sont Vénus, la Terre, Mars. Par contre, elle est petite. Elle est près de 3 fois plus petite et près de 20 fois moins lourde que la Terre. Mais elle est presque aussi dense. Sa densité remarquable, qui est dépassée seulement par la Terre, elle est due à l'importance de son noyau métallique. En fait, le noyau métallique de Mercure représente 85% de son rayon, alors que sur la Terre, il en représente 55%. Le métal pesant très lourd, sa densité est importante. Mercure tourne sur elle-même, mais très lentement. Elle met 59 jours terrestres à faire une rotation complète, alors qu'elle met 88 jours à faire le tour du Soleil. Il se trouve qu'elle est en résonance spin-orbite, c'est-à-dire que relativement aux étoiles fixes, elle tourne sur son axe exactement 3 fois toutes les 2 révolutions autour du Soleil. C'est-à-dire qu'en 2 années de Mercure, elle a passé 3 jours de Mercure. Mercure a une orbite tout à fait particulière. En fait, c'est une ellipse assez allongée et qui n'est pas centrée sur le Soleil. Ainsi, Mercure peut être soit au plus près du Soleil, à 46 millions de kilomètres, soit au plus loin, à 70 millions de kilomètres. Ce qui fait quand même un sacré écart. On dit que son excentricité orbitale est de 0,2. Au moment où Mercure est au plus près du Soleil, c'est-à-dire au périhélie, il se passe un phénomène assez étrange. En effet, pendant 4 jours terrestres, la vitesse orbitale angulaire de Mercure est égale à la vitesse de la rotation angulaire. De sorte que si on est sur Mercure, le mouvement apparent du Soleil cesse. On a l'impression qu'il ne bouge pas. Plus on est près du périhélie, plus la vitesse orbitale angulaire de Mercure dépasse la vitesse de rotation. Donc pour notre observateur, qui serait sur Mercure, hein, hypothétique évidemment, mais le Soleil semblerait se déplacer à l'envers, dans une direction rétrograde. Puis 4 jours après le périhélie, le mouvement apparent normal du Soleil reprendrait. Il se lèverait à nouveau à l'est pour se coucher à l'ouest. En fonction de l'endroit où cet hypothétique observateur se trouve, voilà ce qu'il pourrait voir. S'il est sur l'équateur, le Soleil se lève à l'est, puis un peu après être passé au-dessus de l'observateur, il s'arrête. Puis il repart dans l'autre sens, il retourne vers l'est. Et avant de se coucher à nouveau, il va s'arrêter à nouveau et repartir vers l'ouest pour aller finalement se coucher vers l'ouest. Alors, il faut bien comprendre que ça se passe sur un temps relativement long, puisque un jour mercurien, c'est 88 jours terriens. L'effet global, c'est que pendant 2 ou 3 semaines, le Soleil est presque stationnaire au-dessus d'un point. Et en plus, c'est à son plus haut niveau de brillance, parce que Mercure est au plus près du Soleil. Donc cette exposition prolongée de la planète, au plus proche du Soleil, rend ces zones de Mercure très très chaudes, jusqu'à 400 degrés Celsius de température du sol. La planète Mercure doit son nom au messager des dieux dans la mythologie romaine, qui s'appelle Mercure. Cette planète est ainsi nommée par les Romains à cause de la vitesse avec laquelle elle se déplace dans le ciel. Mercure est connue depuis que les hommes s'intéressent au ciel nocturne. La première civilisation à avoir laissé trace de cette planète, c'est la civilisation sumérienne, 3e millénaire avant Jésus-Christ, qui la nommait Ubu-Idim Gu-Ud. Ça signifie la planète sautante. Les premiers écrits d'observation détaillée de Mercure nous viennent des Babyloniens. Les Babyloniens appelaient cet astre Nabu, en référence au dieu du savoir de la mythologie mésopotamienne. Ils sont également les premiers à avoir étudié le mouvement apparent de Mercure, qui est différent de celui des autres planètes. Dans l'Antiquité, les Grecs, qui sont héritiers des conceptions indo-européennes de la préhistoire, considèrent, et ça à peu près jusqu'au 4e siècle avant Jésus-Christ, qu'il y a 2 Mercures. Une visible avant le lever du Soleil d'un côté, et une autre visible après le coucher du Soleil. Ils pensaient que c'était 2 planètes distinctes. Ils les ont appelées respectivement Stilbone, celui qui brille, et Hermès, en raison de son mouvement rapide. Ce dernier est d'ailleurs toujours le nom de la planète en grec moderne, et le H est resté l'initiale de la planète Mercure, pour éviter de la confondre avec Mars, qui elle aussi a une lettre M. L'astronome gréco-égyptien Ptolémée, dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps, évoque la possibilité de transit planétaire devant le Soleil dans son ouvrage Hypothèse planétaire. Un transit de Mercure se produit lorsque la planète se situe entre l'observateur et le Soleil. Elle est alors visible sous la forme d'un petit point noir qui traverse le disque solaire. Il suggère que si aucun passage n'a jamais été observé, c'est soit parce que les planètes comme Mercure sont trop petites pour être vues devant le Soleil, soit parce que les passages sont trop peu fréquents. Alors Johannes Kepler, en travaillant sur les lois des mouvements et l'elliptique des planètes, va prédire en 1627 un transit de Mercure devant le Soleil. Ce transit va être observé par Pierre Guinsindy, qui pourra observer le transit seulement avec 5 heures d'écart par rapport à la prédiction de Kepler. Malheureusement, Kepler était mort un an avant ce transit et il n'aurait pas pu avoir la confirmation de ses travaux. En 1661, une observation prolongée de Mercure a été faite par Johannes Hevelius, qui en a proposé une description détaillée. Les données recueillies dans les transits de Mercure entre 1667 et 1881 ont permis à Simon Newcombe de déterminer précisément l'avance du périhélie de Mercure, ce qui fournira en 1915 le premier test expérimental de la gravité générale. Je vous explique ça. Comme pour l'ensemble des planètes du système solaire, l'orbite de Mercure connaît une très lente précession du périhélie autour du Soleil, c'est-à-dire que son orbite est elle-même en rotation autour du Soleil, un peu comme un hula hoop. Cependant, contrairement aux autres planètes, la période de précession du périhélie de Mercure ne concorde pas vraiment avec les prédictions faites à l'aide de la mécanique newtonienne. En effet, Mercure connaît une précession légèrement plus rapide que celle à laquelle on s'attendrait, en appliquant les lois de la mécanique céleste de Newton. Donc on se trouve en avance d'environ 43 secondes d'arc par siècle. Alors ça peut paraître très faible hein, et négligeable, mais vous allez quand même voir que cette petite avance a de grandes conséquences. Les astronomes ont donc, dans un premier temps, pensé que la présence d'un ou plusieurs corps entre le Soleil et Mercure, donc d'une interaction gravitationnelle, perturberait le mouvement de Mercure. L'astronome français Urbain Le Verrier avait découvert la planète Neptune à partir d'une anomalie de l'orbite d'Uranus, par exemple. Donc, il se dit, bah, tiens, je vais me pencher sur ce problème et je vais voir s'il n'y a pas une planète inconnue ou une seconde ceinture d'astéroïdes qui se situerait entre Mercure et le Soleil. Il a même cru l'avoir trouvée en observant un point noir sur la surface du Soleil. Il appelait cette planète Vulcain. Malheureusement, il ne pourra jamais la retrouver. En fait, il est très probable qu'il ait observé une tache solaire. Il faut attendre en 1916 et la théorie de la relativité générale d'Einstein pour obtenir une explication. Einstein fournit l'explication de la précession qu'on observe en formalisant la gravitation comme étant affectée par la courbure de l'espace-temps. Mercure est tellement proche du Soleil que, en passant auprès de cette masse énorme, l'espace-temps est courbé et donc va décaler son orbite de quelques secondes d'arc à chaque passage. Einstein, dans ses calculs que je vous épargne, hein, parce que les équations sont un petit peu compliquées et puis ça ne passe pas très bien à la radio, Einstein donc trouve dans ses calculs que l'angle de décalage de l'orbite doit être égal à 43 secondes d'arc. Et en fait, dans les recherches d'Adams et de Le Verrier, ils ont trouvé, eux, un décalage égal à 42,98 secondes d'arc. Einstein est donc très soulagé d'apprendre que les prédictions de ses calculs étaient confirmées par l'expérience. Dans une lettre datée de 1915, il écrit « Voici venue la fin de mes tourments. Ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est de constater que ma théorie concorde avec le déplacement du périhélie de Mercure. »